te le laisse quand même, voilà, merci.
Pour ce qui est de l'âge minimum pour être vieux, quand j'ai présenté Portes Ouvertes à un groupe de jeunes, je leur ai dit hey, « Eh les jeunes, vous pouvez aussi diffuser les infos de Portes Ouvertes sur Facebook. » Il y a eu un jeune qui m'a regardé, j'avais l'impression d'être un extraterrestre, et je lui ai dit « Mais pourquoi tu me racontes ça ?» Il me dit « Mais parce que c'est pour les vieux Facebook. » Donc j'ai appris qu'à 38 ans, j'étais vieux. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Pour mieux vous présenter l'association Portes Ouvertes, je voudrais vous mettre un petit teaser, une petite vidéo qui va se passer maintenant, et bien qui va vous montrer un petit peu qui on est, et ce depuis 70 ans. Ce n'est pas une mission qui a 10 ans, c'est vraiment de l'après-guerre, vraiment un fondateur avec un témoignage incroyable, donc je vous laisse voir ce témoignage, ce teaser.
« The strength of what remains is at the point of death », God told me in July 55.
Ces jalons qui ont été posés depuis des années, j'aurai jamais le temps de vous raconter tout ce que le Seigneur a permis, mais il y a une phrase que frère André disait quand il a commencé sa mission, et je me retrouve un peu en lui. Il disait, si Dieu m'avait montré ce qu'allait devenir Portes Ouvertes, j'aurais eu trop peur, j'aurais fui, j'aurais jamais fait le pas de foi. Et j'aime beaucoup ça parce que si Dieu m'avait montré tout ce que j'allais faire avec Portes Ouvertes le jour où j'ai fait ce recrutement, je crois que j'aurais dit non, je ne suis pas capable. C'est un témoignage que je veux vous donner pour vous dire que nous ne posons pas la question forcément de nos capacités, posons-nous plutôt la question de ce que veut faire le Seigneur et faisons ce pas de foi de lui dire « je te fais confiance, je ne sais pas où tu m'amènes, mais je te fais confiance ». J'aimerais partager la parole de Dieu pendant un petit temps sur ce passage de 1 Pierre au chapitre 1 du verset 3 à 5. Je vais juste après aller un peu plus loin. Un épître qui a été écrit pour les chrétiens d'Asie mineure, c'est-à-dire de Turquie actuelle, en vue de les fortifier vis-à-vis de la persécution. On a un épître qui nous parle, qui parle à des frères et sœurs qui sont issus de la, qui vont vivre ou qui sont en train de vivre la persécution. Il y aurait plusieurs commentaires à faire sur de quelle forme de persécution. On n'est pas tous d'accord dans les commentateurs. Donc la seule chose que l'on sait, c'est qu'effectivement ces chrétiens de Turquie ont vécu de terribles persécutions. Et l'apôtre Pierre leur rappelle dans cette épître qu'ils sont des résidents temporaires. Et qui a un but du fait d'être résident temporaire. Mais on va commencer par lire ce premier passage, qui est juste formidable. « Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi, notre traduction par le moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. » Une partie du verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Je m'arrête là, volontairement. Moi je dis « waouh ». Et je voudrais vous dire que si jamais un jour vous êtes découragé dans votre foi, ou si vous perdez, je parle aussi aux jeunes ou aux personnes qui viennent à Jésus-Christ, s'il y en a dans cette salle, vous avez un passage pour vous rappeler de l'essentiel. Regardez ces belles paroles. Il nous a régénérés et nous avons une espérance vivante parce que Jésus-Christ est ressuscité. Un acte accompli par Jésus dans lequel nous jouissons d'une bénédiction. Il nous apprend ce texte que nous avons un héritage que personne ne peut ravir. Ni l'être humain, ni l'ennemi, ni le diable, personne. Il nous est gardé, il ne pourra jamais se corrompre, jamais se détruire. Il nous est réservé. Et puis, nous avons également cette phrase magnifique, « Nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Dieu nous garde par un seul et unique moyen, la foi. Non les œuvres, mais uniquement la foi. » Et c'est là ce qui fait votre joie à vous, les chrétiens de Turquie d'Asie mineure. C'est ce qui fait votre joie à vous, ici, église du 8e arrondissement de Lyon. C'est ce qui fait la joie à plus de 388 millions de chrétiens qui sont persécutés, la joie de l'Évangile. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, vous avez vu que j'ai coupé ce verset 6, c'est là ce qui fait votre joie. Même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristé pour un peu de temps par diverses épreuves. Et là, c'est assez complexe. Dans une même phrase, une dichotomie, un sens contraire, c'est là ce qui fait votre joie, mais vous allez être attristé. Et dans le contexte, on parle à ces chrétiens de Turquie. La joie, mais la tristesse se correspondent. Au final, c'est nous dire que la joie de l'Évangile ne pourra jamais être altérée, ne devrait jamais être altérée par la tristesse. Et puis, il y a cette phrase, « puisqu'il le faut ». Et dans le grec, quand on fait un peu de critique textuelle, c'est assez marrant de voir que le verbe « dei » signifie une nécessité divine. Et c'est assez difficile d'entendre. C'est comme si le Seigneur va vous faire passer par diverses épreuves, mais il y a un but, il le faut. Il est nécessaire que vous y passiez, non pas que je souhaite que vous souffriez, mais parce qu'il y a un but. Et dans ce qui fait notre joie de l'Évangile, il y a ce coup d'arrêt qui nous prévient et qui nous rappelle. Et je vais vous dire, les frères et sœurs qui sont persécutés, on a le même Dieu, le même Esprit, le même Jésus-Christ, on a le même ennemi, et ça pourrait être vous. D'ailleurs, ne nous leurrons pas dans notre société actuelle, si ce n'est pas de la violence, de la discrimination ou de la perte de liberté de religion, ce sera dans un autre contexte que l'ennemi nous accablera, au travers de la séduction, de l'anesthésie peut-être, cette idée de dire, voilà, nous sommes tranquilles, nous n'avons pas forcément besoin, ou peut-être de l'habitude, de la routine, d'une certaine forme de confort. Je ne parle pas de persécution du confort, je n'irai pas jusque-là. Mais sachons que l'ennemi aussi peut nous accabler. Maintenant, dans ce passage, il y a un but précis, même si maintenant, puisqu'il le faut. Et ce but précis, il est dans les prochains versets. « Afin que la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Et ça, c'est un verset de soulagement qui nous dit « Oui, il y a de la tristesse, attention, vous avez la joie, mais ne vous inquiétez pas. » Et là, dans ce passage, ce n'est pas la foi qui est plus précieuse que l'or ou qui est comparée à l'or, mais c'est la foi qui est éprouvée qui est comparée à l'or. La réalité, c'est qu'une foi qui se confesse, mais qui ne vit pas dans les difficultés, ne peut pas évoluer, ne peut pas progresser, y compris la sanctification, y compris nos progrès, y compris même on ne peut pas voir la gloire de Dieu si de temps en temps, dans nos propres vies, on ne voit pas l'adversité et si on ne laisse pas Dieu triompher de cette adversité-là. Il y a ce résultat, la louange, la gloire, l'honneur, seulement quand Jésus-Christ apparaîtra, nous sommes des résidents temporaires, dit l'apôtre Pierre, je redis Paul, je m'excuse si je me suis trompé tout à l'heure. Et dans cette foi éprouvée, c'est souvent le comparatif du fondeur dans l'Antiquité. Je me suis renseigné à un frère qui est bijoutier orfèvre dans mon église, et on avait médité ce passage ensemble, et il me dit, est-ce que tu sais comment on fait pour purifier de l'or? Il me dit, c'est la méthode de la coupellation. On prend, dans les temps antiques, on prend un creuset poreux, c'est souvent de l'os, on le fait chauffer, on met l'or dedans, et il faut monter à plus de 1000 degrés pour que cet or puisse fondre. Et une fois que cet or se met à fondre, les impuretés de l'or brut sont agglomérées autour du creuset. Mais ce qui est assez impressionnant, c'est qu'il me disait, ce frère qui s'appelle Micha au passage, il me disait, quand on veut vraiment purifier l'or au maximum, on prend un peu de plomb, on le met dans l'or et ça fait une réaction physique, chimique, hein, je ne connais pas, qui fait que les impuretés remontent à la surface et que le feu en haut sur la surface brûle toute impureté. Je trouve personnellement que c'est une belle image de ce que parfois, au travers de l'épreuve de notre foi, le Seigneur désire faire. Brûler toute impureté qui nous empêcherait de vivre notre liberté évangélique. Et attention, quand je dis liberté évangélique, ce n'est pas faire tout et n'importe quoi. Mais cette liberté qu'on peut assimiler, par exemple, à une crainte paralysante. Comme frère André. S'il avait su ce qu'allait devenir Portes Ouvertes, ce qu'il allait devoir faire et les sacrifices à devoir faire, il n'aurait jamais fait le pas de foi. Mais à un moment donné, il n'avait pas la crainte, il l'a bravé, sa foi avait été éprouvée. Je pourrais vous parler aussi de moi et de toutes mes craintes et mes peurs qui se sont envolées et de celles que j'espère encore s'envoler. Je pourrais vous parler aussi parfois de nos rancunes, de nos amertumes, de nos regrets, de nos culpabilités. Et je rappellerai que Jésus s'en est chargé à la croix. On pourrait aussi parler également du péché qui parfois nous empêche de franchir un certain palier, nous décourage, et à laquelle là aussi Jésus l'a pris à la croix. Cette foi éprouvée n'a qu'un seul but, nous donner plus confiance en Jésus-Christ, nous ramener à nous dire, Jésus, je te fais confiance dans une situation que je ne maîtrise pas. Et d'ailleurs, dans le puisqu'il le faut, si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristé pour un peu de temps. Et le temps de Dieu est maîtrisé dans sa surmain. Tout cela, chers frères et sœurs, cette foi éprouvée a un but. Celle, effectivement, de nous faire progresser dans les voies du Seigneur, mais le but in fine est plus important que ça. Il consiste en l'obéissance. Vivre l'Évangile, se réjouir de la bonne nouvelle, avoir une foi éprouvée, progresser dans les voies du Seigneur pour un seul but, l'obéissance. Obéir à notre Seigneur Jésus-Christ, faire sa volonté, se conformer à ses principes. Oui, tel est le but du chapitre. Et j'aimerais vous le montrer un peu plus loin. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Et j'aimerais vous présenter Jephté, un frère que j'ai rencontré au Sahel, qui vit dans un arrière-plan animiste. Et son village est animiste. D'ailleurs, quand le village où il vit, qui est plutôt une petite ville en fait qu'un village, c'est une formation clanique, tribale, dans lequel l'animisme, c'est le culte des esprits, l'esprit de la roche, l'esprit de ce que vous voulez, l'esprit de la forêt. Et Jephté appartient à une famille biologique, mais aussi il appartient à une famille clanique dans laquelle il doit répondre de rites, de fêtes et de toutes sortes de rituels bien préparés. Et j'ai rencontré ce jeune homme que je revois comme s'il était là, tout penaud sur sa chaise, timide de rencontrer des Français et craintif de nous raconter son témoignage. Oh mon Dieu, il n'y avait pas de quoi être craintif par rapport à ce qu'il a vécu et ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Pour devenir un adulte dans sa communauté, il faut passer un rituel initiatique, équiper les armures, les couleurs, aller rencontrer le sorcier, faire toutes sortes de rituels ésotériques dont vous pouvez imaginer, et ensuite passer 3 jours en compagnie des esprits, de la forêt, de ce que vous voulez. Mais Jephté a rencontré le Seigneur quand il avait 12 ans. Il s'est converti quelques mois après quand un frère en Christ lui a donné une Bible et lui a parlé de Jésus. Jephté a pris cette Bible qu'il cachait et qu'il ne montrait pas. Et en lisant les paroles, il a confessé Jésus-Christ. Cette confession à Jésus-Christ lui a valu d'appartenir à Jésus et de se dire, voilà Seigneur, je refuse mon ancienne vie et je te suis. Mais il nous disait, du jour de ma conversion, ou du moins du jour où le Seigneur m'a touché et où j'ai eu envie, où j'ai eu le zèle d'être avec Dieu, j'avais aussi un regret, et un regret très profond. C'est celle que je devrais un jour passer par ce rituel. Et je savais qu'un jour je serais obligé de renier le Christ, et ça me dévorait. Alors je priais, comme Jésus l'a fait à Gethsémané, « Seigneur, éloigne de moi cette coupe !» Mais il ne pouvait pas dire « ma volonté », parce qu'il sait que sa volonté, c'était que justement, il renonce. Et pour lui, ça lui était inacceptable de renoncer à quelque chose de clanique, de tribal, qui était une évidence dans sa communauté. Il a prié, « Seigneur, tu as envoyé Jonas pour proclamer la parole à Ninive, et tous les Ninivites se sont convertis. Pareil, fais pareil, convertis mon village, je serai débarrassé de ce rituel. » Bien sûr, ce ne sera pas le cas, et heureusement, parce que nous n'aurons pas vu la gloire qui suit. Notre frère, Jephté, résigné, décide d'obéir à ses parents, dont il ne savait pas qu'il était chrétien. Il s'équipe des armures, des couleurs, et va rencontrer ce sorcier, ce chaman dans le désert. Il est triste, car il va faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, renier le Christ au travers de cette pratique. Mais, sans compter que l'Esprit Saint et sa puissance est venu toucher son cœur et lui a donné une paix, une quiétude, une assurance qui dépasse toute espérance, qui dépasse, j'ai envie de dire, toute raison humaine, et qui lui a amené dans cette confiance de dire « je fais ce pas de foi » et de retrouver devant le chaman le sorcier, de lui dire « sorcier, je ne pratiquerai pas le rite initiatique car j'appartiens à Jésus-Christ et que c'est lui mon Dieu ». Et le chaman lui dit « mais tu ne peux pas faire autrement, tu n'as pas le choix, les conséquences sont désastreuses ». Il dit « qu'importe, j'ai confiance, mon Jésus va m'accompagner, va m'aider ». Il dépose tout, il rentre chez lui, il va voir ses parents. Ses parents sont surpris de le voir. Alors imagine la scène, il est tout haletant parce qu'il s'est dit « maintenant que j'ai refusé le chaman, il va falloir que j'aille expliquer à mes parents ». Il explique à ses parents. Bien évidemment, ses parents ne le reçoivent pas. Il sera frappé, insulté et chassé par ses parents. Le témoignage s'arrête là. Et j'ai l'équipière que je connais bien, qui s'appelle Amora, et qui dit à Jephté, « Jephté, raconte-leur la véritable conséquence de ton choix ». Et là, il nous raconte que dans sa communauté, on n'est plus un enfant à 17 ans, mais on n'est pas un homme si on n'a pas fait le rite. Et si on n'a pas fait le rite, on est ce qu'on appelle de la viande. Terme hautement péjoratif, vous l'imaginez. Et quand on est de la viande dans sa communauté, voici les conséquences et les privations. Vous ne pourrez jamais vous marier. Interdit. Vous ne pouvez plus circuler dans certaines rues. Vous ne pourrez jamais participer aux fêtes. Bon, ça, il n'avait plus envie d'y participer, ça tombe très bien. Vous ne trouverez plus d'emploi, vous n'en trouverez jamais, parce que personne dans la ville où vous vivez ne vous embauchera parce que vous êtes de la viande. Vous n'aurez plus le droit de posséder. Et même si vous possédez un lopin de terre que vous faites pousser quelque chose en loose day, vous ne pourrez jamais le vendre parce que vous n'aurez pas le droit de vendre. Vous ne pourrez plus acheter des biens, que ce soit même de la nourriture. Vous n'avez plus le droit d'avoir des amis. Et si jamais vous voulez avoir une pièce d'identité, c'est niette. Parce que c'est la communauté qui vous reconnaît administrativement et à laquelle vous pouvez aller faire vos papiers d'identité. Autrement dit, vous perdez toute votre vie. Vous n'avez plus rien, plus les droits élémentaires, même de manger, de se nourrir, de travailler. C'est fini. Dans Apocalypse, on a un passage dans une église d'Asie mineure, justement, on y revient, Asie mineure, dans lequel, si vous ne faisiez pas la vénération du dieu ou de la déesse, je ne sais plus exactement, ben, vous ne pouviez pas vendre, vous ne pouviez pas acheter. On est exactement dans ce contexte-là. J'aimerais vous dire que Jephté n'est pas resté seul. Nous avons pris en charge notre frère Jephté. Il est aujourd'hui pris en charge par des pasteurs. Il est aujourd'hui accompagné de sœurs qui le nourrissent. Il est préparé à son ministère, qui lui aussi va annoncer l'évangile, et va annoncer que oui, c'est possible de faire confiance en Jésus et qu'il y a des frères et sœurs qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner. Il y a une communauté là-bas qui peut vous soutenir et vous supporter. Et Portes Ouvertes est là pour supporter ce frère. Et j'ai envie de vous dire solennellement une chose, c'est qu'il a tout perdu, mais il a gagné le meilleur. Il a gagné Christ, le salut. Mais il a gagné aussi quelque chose qui est très important et très précieux. Il vous a gagné, tous ensemble. Vous êtes ses frères et sœurs en Christ. Alors j'ai envie de vous dire, certains diraient, waouh, GFT, il est extraordinaire. Non, il n'est pas plus extraordinaire. 17 ans refusé. Moi, 17 ans, j'aurais pas refusé le rituel, je l'aurais fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est l'Esprit Saint qui est venu toucher le cœur de notre frère. Et c'est lui qui est extraordinaire. Et c'est Jésus qui est extraordinaire. Et dans cette parole de 1 Pierre, la foi éprouvée, plus précieuse que l'or, qui est pourtant est éprouvée par le feu. Et c'est exactement le témoignage d'obéissance que nous donne Jephté, dans lequel, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, ça vous est adressé au travers de lui, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et moi je dis gloire à Dieu pour ce témoignage, gloire à Dieu pour cette obéissance à la vérité. L'Index mondial de persécution des chrétiens, qui est un document scientifique, méthodologique reconnu, nous montre cette cartographie avec des classements des pays en persécution forte, persécution extrême. Et c'est plus de 388 millions de chrétiens qui sont exposés à la persécution. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous en souffrance actuelle, mais ça veut dire qu'à n'importe quel moment, la persécution peut les atteindre et peut les faire souffrir. La grande question, c'est, on aide ceux qui souffrent, comme Jephté a souffert. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne souffrent pas encore et qui pourraient vivre la persécution? Le ministère de Portes Ouvertes, c'est les préparer à la persécution. Et dans ce graphique, cette carte évolutive, vous voyez l'évolution de la persécution au fil des années. Et vous allez voir comment la persécution, elle augmente en territoire, mais aussi elle augmente en intensité, recouvrant pratiquement plus de 70 pays en persécution pratiquement orange sur tout le globe. Remarquez que l'Occident est épargné de la persécution, ce qui devrait nous laisser. Et d'ailleurs, en missiologie, selon les chiffres du congrès de Lausanne, 80% des chrétiens sont dans ces pays persécutés. Aujourd'hui, le christianisme occidental ne représente que 30% du christianisme mondial, ce qui nous fait réfléchir sur notre position. Dans ce territoire continent africain, je tiens à rappeler que l'Afrique n'est pas un continent perdu. On a toute une carte de l'Afrique qui est coloriée en orange ou en rouge. Et nous le faisons pour des raisons de communication dans lesquelles toutes les personnes ne sont pas connaisseuses de géographie. Mais nous rappelons que la persécution n'est pas uniforme à tous les pays. Par exemple, si vous allez au Cameroun, vous pouvez très bien aller à Yaoundé et vous verrez même des pasteurs, des évangélistes sur les murs des buildings, sans aucun problème. Vous avez une énorme communauté d'églises dites de la prospérité au sud du Nigeria. D'ailleurs, les plus grandes églises sont là. Et pourtant, vous allez au nord du Cameroun, au nord du Nigeria, vous avez les tribus Peul, vous avez Boko Haram, l'État islamique. Et j'ai pu, moi, visiter ici cette région dans laquelle j'ai assisté à de nombreuses veuves qui ont été chassées et qui ont vu leur mari être assassiné par Boko Haram. Nous allons aller en République démocratique du Congo, où 90% du pays est libre, où il n'y a pas de persécution, mais si vous allez à l'extrême-est, vous avez une force qui à l'époque était une force de rébellion au Ouganda, qui se cachait dans la forêt du Kivu, à l'extrême-est du Congo, et qui aujourd'hui s'est islamisée, radicalisée, et qui attaque les villages chrétiens. Il y a 9 mois de cela, on a eu une information troublante et terrible d'une église d'une centaine de personnes dont les terroristes, il faut le dire, de l'ADF, ont décapité 70 membres de cette église pour envoyer les 30 autres dans les autres églises pour dire « on est là, on arrive et on va vous assassiner ». Une chose complètement horrible. Et j'aimerais à ce titre vous présenter 2 petits frères, Jonathan et Kambalé, qui sont eux aussi du Cameroun, de RDC. Et leur histoire est terrible. Vous avez ces 2 frères qui vivent ensemble, qui avaient des parents, vous allez comprendre la suite. Et notre frère Jonathan, lui, est parti voir sa grand-mère dans un village voisin, passer la nuit avec elle. Et notre frère Kambalé, lui, il est resté avec ses parents à la maison. Et une nuit, les troupes de l'ADF attaquent le village. Alors les parents décident de prendre Kambalé et de le lever sur le toit de la maison pour que si jamais les terroristes rentrent dans la maison, ils ne trouvent pas Kambalé. Et Kambalé, sur ce toit de la maison, voit la pièce en bas et assiste au massacre de ses parents à l'arme blanche. Le lendemain, Jonathan, ayant appris l'attaque, se précipite dans le village et ouvre la porte de sa maison et voit ses parents. Vous imaginez le traumatisme pour ces deux enfants, ces deux jeunes, incompréhensible. Et après cette série d'attaques, Portes Ouvertes a mis en place des cellules de soins post-traumatiques pour les survivants, les hommes, les femmes, mais particulièrement les jeunes qui avaient vu des horreurs et qui ont été rescapés de ces horreurs. Et sur plusieurs jours, plusieurs, même des dizaines, une quinzaine de jours, ils ont pris ces jeunes, ont fait des ateliers des camps dans lesquels ils ont fait de la formation au discipulat, ils ont rappelé l'œuvre de Jésus à la croix, ils ont rappelé ses principes, ils ont fait du soin, ils ont fait de l'entretien pastoral, ils ont fait du soin post-traumatique, ils ont aussi permis de libérer la parole pour que ces jeunes puissent confesser. Ils ont beaucoup prié, ils ont essayé de jouer. Et puis à la fin, ils tentent un dernier rassemblement de jeunes et les moniteurs qui avaient prêché qu'on pouvait déposer ses fardeaux à la croix, qu'on pouvait tout donner à Jésus et pratiquer et obéir à sa vérité, voici que Jonathan se lève. Et voici ce qu'il dit. Depuis que mes parents sont morts, j'ai tant souhaité, tant imaginé voir les hommes qui les ont massacrés, les massacrer à mon tour. Et je me suis fait des imaginations et des images où moi-même je les torturais. Je suis fatigué de supporter et de devoir avoir de la haine et de la rancœur contre ces hommes. Je veux que le Seigneur me guérisse, mais je sais que le Seigneur a pris mon péché à la croix, et parce qu'il a pris mon péché à la croix, moi je veux obéir pour lui faire plaisir, et je veux pardonner à ceux qui ont massacré mes parents. Il l'a dit avec larmes, avec peine, il l'a dit. Est-ce que ça veut dire qu'il est guéri? Pas encore, mais est-ce que ça veut dire qu'il est sur une voie de la guérison? Je vous dis oui. Et je vous dis qu'à ce moment-là, les moniteurs qui étaient avec lui, les équipiers de Portes Ouvertes, se sont mis littéralement à pleurer. Parce que c'était un magnifique témoignage de reconnaissance de la grâce de Jésus, de pardon, dans un contexte tellement difficile qu'il n'y a que l'Esprit Saint, il n'y a que Dieu qui peut susciter ça dans le cœur d'un jeune enfant comme lui. Jonathan n'est pas extraordinaire. Il est un homme comme vous, un jeune homme comme vous, comme moi. Mais Dieu est extraordinaire et Dieu a fait du bien à Jonathan. Prions, continuons de prier pour les projets de Portes Ouvertes, pour que Dieu fasse du bien à Kambalé. Dieu a son plan pour chacun d'entre nous. Mais c'est possible que dans les pires moments de nos vies, le Seigneur vienne nous saisir et nous redonne cet encouragement de la grâce par le moyen de la foi exclusivement. J'ai vu qu'il y avait les jeunes, il y avait le section des aigles, les aigles sont ici. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je vais pouvoir faire une illustration avec les aigles. Est-ce que vous avez déjà vu un reportage sur les aigles, notamment au moment de la tempête? Parce qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Quand il y a la tempête qui arrive, tous les oiseaux, les animaux s'en vont, mais pas l'aigle. Il est un peu maso, il reste à proximité des tempêtes et il fait quelque chose qui est assez étonnant, il cherche les courants les plus violents. Si je devais donner une image de ce qu'on fait avec l'Église persécutée, c'est un petit peu ça. On essaye de faire en sorte que le chrétien ne fuit pas la persécution. Parfois, il le faut. Hein. Attention, l'État islamique arrive en Syrie, cassez-vous. Désolé, hein, mais il faut partir. Mais on essaye de faire en sorte que ce ne soit pas une occasion de partir et de déchristianiser un territoire, mais de faire au contraire en sorte qu'ils restent et qu'ils continuent à être des témoins. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils affrontent ce courant de la persécution comme l'aigle, parce que quand l'aigle il vit le contre-courant, il attend les vents les plus violents. Et quand il y a les vents les plus violents, c'est là qu'il déploie ses ailes et se sert des vents contraires pour s'élever au-dessus de la tempête, la traverser, et puis après, il va faire son petit rituel là, de descendre. Voilà. Et c'est un peu cette image-là. Nous voulons aider les frères et sœurs à déployer leur zèle de la foi dans les moments les plus difficiles pour qu'ils puissent témoigner de la gloire de Dieu. Et vous savez, c'est ce que disait frère André, la parole de Dieu transforme les gens et les gens transformés transforment les situations autour d'eux. Nous sommes une mission du changement. Nous croyons qu'il peut y avoir du changement. Nous le croyons au travers des politiques. Personnellement, j'ai un peu plus de mal. Mais par contre, ce qu'on est sûr, on est tous d'accord là-dessus, le Seigneur peut transformer les situations au travers d'un cœur touché par la parole de Dieu. C'est elle qui transforme les gens, et les gens qui sont transformés, ils transforment les situations autour d'eux. Notre ministère, c'est fortifier et équiper les chrétiens dans les pays où ils sont le plus persécutés, discriminés en raison de leur foi, afin qu'ils puissent être sel et lumière au sein des sociétés qui les oppriment. Afin que ce ne soit pas moi, français albigeois avec l'accent du sud-ouest, qui vais annoncer l'évangile dans des territoires dont je ne connais ni la culture ni la langue, mais que ce soit des équipiers locaux, des partenaires, que ce soit l'église locale qui prenne en charge sa mission d'atteindre les peuples non atteints. Toutes sortes de projets pour aider l'église à survivre, projets socio-économiques, formation biblique, soins post-traumatiques, littérature chrétienne, Bible, recherche, plaidoyer, la présence sur le terrain, c'est notre valeur. On fait de la présence du relationnel avec les chrétiens persécutés. Pauline, par exemple, qui a été chassée par Boko Haram et qui a perdu son mari et ses deux enfants, a passé littéralement 10 ans dans les ténèbres. Elle ne voulait plus rien entendre de Jésus ni des chrétiens. Et les équipiers allaient régulièrement la visiter, mais elle était recluse dans une petite chambre et elle ne voulait rien entendre. Elle vivait d'aumône. Mais un jour, le Seigneur l'a interpellée et lui a montré qu'elle devait accepter des services d'entraide, des groupes d'entraide où on réunit des femmes, comme vous l'avez ici, qui sont de différents niveaux de traumatisme. Certaines sont en guérison, d'autres ont déjà guéri, d'autres ne sont pas du tout dans ce chemin-là. Et dans l'idée, c'est qu'on fasse ce qu'on appelle les trois piliers de la résilience. Le discipulat, on forme à Jésus, le traitement post-traumatique et l'activité socio-économique pour qu'elles puissent être indépendantes financièrement et qu'elles puissent subvenir à leurs propres besoins. Et l'objectif, c'est que quand ensuite elles vont aller sur le marché vendre leurs produits, elles puissent parler de Jésus, elles puissent témoigner de ce qu'elles ont vécu des attaques de Boko Haram et comment Dieu leur a fait du bien et comment elles s'en sont sorties. Et ces femmes, elles travaillent ensemble, elles s'encouragent, elles prient, elles s'édifient. Et quand il y a une femme, comme Pauline, qui nous dit, regardez son visage, ça n'a rien à voir avec les ténèbres, et qui nous dit « Je suis la BIRE aujourd'hui de Jésus-Christ ». Alors la BIRE, c'est la brigade d'intervention rapide du Cameroun. Des unités de SWAT en cagoule, tout en noir, avec des casques qui sont vraiment très impressionnants. D'ailleurs, je ne sais pas comment ils font les pauvres pour ne pas souffrir de la chaleur, surtout à l'extrême nord du Cameroun. Ils ont bien du courage. Et en fait, quand elle dit ça, il n'y a pas de prétention. Elle veut juste dire qu'elle est devenue une élite, dans le sens où sa foi est spontanée, elle attend tout du Seigneur, il n'y a pas de prétention. Et quand elle dit ça, elle est en train de dire « J'ai changé du tout au tout, Dieu m'a guéri, Dieu m'a libéré. » C'est l'année dernière, nous avons pu aider, accompagner, former plus de 9,5 millions de chrétiens. Ils ont pu être soutenus. Et ce chiffre de 9,5 millions de chrétiens soutenus par Portes Ouvertes, c'est notre mission. C'est ce qu'on cherche, aider le plus en plus de chrétiens. L'année prochaine, on veut atteindre plus de 10 millions. Ce projet, qui représente 500 groupes, 6 000 femmes au Cameroun, qui ont été aidées à ce jour, c'est cette concrétisation, cette preuve que ça marche et que le Seigneur se glorifie au travers de ces situations et au travers de ces projets. La question que je voudrais vous poser, le format est mal repassé par l'ordinateur, mais comment on peut agir? Comment vous pouvez être, vous aussi, participant de la gloire de Dieu? J'ai appris ici qu'il y avait des personnes qui, de temps en temps, relayaient le message de l'Église persécutée. Je ne sais pas qui c'est, se présenteront à moi. Je voudrais vous remercier, mais je voudrais vous dire qu'on a un service qui s'appelle Ambassadeur de Portes Ouvertes, qui est le service antenne, et dans lequel vous êtes en relation avec nous, vous avez des contenus spécifiques, et dans lequel vous êtes aussi en relation avec moi pour de l'information, de la formation. On se réunit régulièrement sur Zoom et en présentiel. Et j'aimerais vous inviter, pour ceux et celles qui ont envie de communiquer le message de l'Église persécutée, parce que moi je ne vais pas revenir tous les dimanches, je ne vais pas revenir régulièrement dans votre Église, mais j'aimerais vous inviter à ce que vous puissiez faire la même chose que moi, relayer ces informations pour que vous puissiez prier pour l'Église persécutée. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, mettre en place un soutien mensuel à notre mission pour pouvoir soutenir l'Église persécutée. Et puis, j'aimerais aussi vous parler de ce magazine que nous avons sur le stand derrière et dans lequel il coûte 12 euros l'abonnement. Mais comme je suis là, j'ai envie de vous l'offrir et nous vous offrons ce magazine. Et pourquoi on vous l'offre ? Pour une seule et unique raison, pour que vous puissiez au maximum l'avoir, lire et prier, soutenir l'Église persécutée. Ne vous privez pas de prendre ce magazine en scannant le QR code ici ou dans le stand, ou tout simplement en remplissant la petite fiche que vous avez ici, que vous retrouvez derrière, vous me la laissez, et automatiquement vous finissez par être abonné à ce magazine. Parce que notre objectif, c'est qu'on puisse tous prier. Ambassadeurs, abonnés au magazine. Je voudrais vous remercier, je vais conclure par la prière. Je vous invite également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook pour les plus de 38 ans qui sont vieux. Je fais partie des vieux. Mais bon, si déjà vous considérez que 38 ans c'est jeune, alors imaginez que vous êtes jeune vous aussi. Voilà. Et je voudrais vous remercier pour votre écoute et remercier le Seigneur Jésus et t'invoquer, Seigneur mon Dieu, te remercier pour ta grâce et ta bienveillance. Merci Seigneur pour ce que tu as fait aux frères et sœurs persécutés. Merci pour ta parole Seigneur qui nous rappelle que oui, on peut passer par des épreuves, mais que Seigneur, tu cherches à purifier notre foi, tu cherches à révéler son authenticité, tu cherches Seigneur à lui donner de la valeur pour que nous puissions progresser dans tes voies, pour que nous puissions obéir comme Jephté a obéi. Merci Seigneur pour lui. Merci Seigneur pour ce jeune que nous aimons, qui est notre frère en Christ. Merci pour Jonathan et pour Kambalé. Merci pour ce que tu as fait pour Jonathan et conduis-le vers la voie de la restauration. Merci aussi pour toucher le cœur de Kambalé. Merci pour Pauline, que tu as ramené des ténèbres à la vie. Merci pour cette sœur qui sert et qui va elle aussi introduire d'autres groupes de femmes. Merci pour ces 6000 femmes qui ont pu passer par ces groupes d'entraide et qui ont été en partie restaurées. Nous te remettons, Seigneur Jésus, leur vie. Nous te remettons la vie de nos frères et sœurs persécutés. Et nous te remettons aussi, Seigneur, que ça aurait pu être nous. Ça pourrait être nous, Seigneur. Tu nous as voulu nous faire naître ici en France ou ailleurs. Et nous vivons ici, nous te sommes reconnaissants, Seigneur mon Dieu. Mais nous voulons te prier par ta grâce aussi de nous équiper, de nous fortifier, Seigneur, pour que nous puissions nous aussi annoncer l'Évangile à notre prochain. Que l'Église persécutée soit pour nous un encouragement. Merci, Seigneur Jésus, de les aider. Merci de nous permettre d'atteindre nos objectifs, d'aider encore plus de chrétiens, de les préparer. Et nous te remettons leur sort, ô Éternel. Nous te remettons aussi nos vies pour que nous puissions te servir, Seigneur, et obéir à tes voies. Et dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, chers frères et sœurs.